Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, d'abord bonsoir à tous. Nous allons poursuivre notre étude sur le Cantique des Cantiques. Simplement nous souvenir que notre première étude portait sur l'assurance de l'amour, se savoir aimer. Ça, c'est quelque chose d'important. L'amour, eh bien, doit aller dans les deux sens. Hein. Dans un couple, c'est comme cela. Et en ce qui concerne notre relation avec Dieu, on sait que Dieu nous aime et nous devons aussi aimer Dieu et ça doit se faire sur une base d'assurance de l'amour, d'un amour réciproque. La fois dernière, donc la deuxième étude, c'était intitulée la bannière de l'amour. Parce que la seule victoire, le seul succès, eh bien, c'est véritablement d'aimer. Alors il s'agit d'une bannière qui est portée bien haut et qui proclame en effet que Dieu nous aime victorieusement et que nous sommes victorieux dans son amour. C'est Paul qui le dit d'ailleurs, hein, que nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'était le dernier rendez-vous que nous avions. Et puis aujourd'hui, donc, dans le troisième volet, nous allons ouvrir une page de ce fameux livre. Et le titre, c'est tout simplement, eh bien, « Quand l'amour s'éveille ». Nous avions terminé notre réflexion il y a un mois. « Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille ». Et là, nous allons voir que l'amour se réveille. Et pour illustrer naturellement dans le chapitre 2, j'aimerais simplement lire 2 à 3 versets pour nous montrer qu'il y a un éveil progressif sous l'image de la nature qui sort de sa léthargie hivernale. Écoutez bien le verset 11. « Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent le parfum. » Et voilà ce que le bien-aimé répond à sa fiancée. « Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens. » Donc, nous assistons à l'éveil, à quelque chose qui est toujours aussi poétique, on pourrait peut-être dire romantique, mais permettez-moi avant d'aller un peu plus loin, puisque nous nous étions arrêtés au verset 8 du chapitre 2, je voudrais simplement faire un rappel de mémoire. Le bien-aimé, c'est Salomon, qui est l'image emblématique du roi terrestre, un roi riche et majestueux comme l'a été Salomon, qui préfigure tout simplement le Christ, le roi céleste. Et nous comprenons d'autant mieux le sens de cette relation entre l'un et l'autre, entre Dieu et son peuple, entre Salomon et cette jeune fille qui s'appelle Sulamite. Et précisément, cette jeune fille, Sulamite, est une bergère déshéritée et elle représente l'Église. Voilà, si nous mettons en transposition, hein, on va s'y habituer au fur et à mesure que nous allons développer notre méditation, c'est comme ça que nous pouvons aborder le Cantique des Cantiques, par le fait même qu'il y a deux plans, il y a un plan humain et un plan divin. Le plan humain, c'est l'amour entre un roi et une pauvre jeune fille, jeune, belle, mais finalement qui est très pauvre. Et sur le plan divin, eh bien, nous avons Dieu à travers Jésus-Christ et puis son Église. Donc, tout cela, c'est pour tout simplement nous rappeler la configuration. Alors, nous allons aller plus loin et, comme d'habitude, c'est sur le mode du dialogue. Il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un qui répond. Tantôt c'est la jeune fille, tantôt c'est le roi. Tantôt c'est le fiancé, tantôt c'est la fiancée. Alors on va reprendre le verset 9, puisque nous nous étions arrêtés juste avant. Il est dit ceci: « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, ou au fond des biches. Le voici, il est derrière le mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. » C'est Sulamite qui parle. C'est elle qui ouvre ce nouveau dialogue. Elle dit ceci: mon bien-aimé, regarde, il est derrière le mur, probablement caché, il regarde par la fenêtre, le treillis, ou à travers, tout simplement, à travers le treillis. Alors on peut s'imaginer ce que ça peut représenter, un mur, une fenêtre, où quelqu'un regarde, et un treillis, c'est quelque chose qui est à claire-voie naturellement. Pour nous montrer que ce bien-aimé est très près, il est très proche, mais il ne se montre pas encore. Ouais. Il est là comme dissimulé, il attend. Et si nous faisons un rapprochement avec ce que nous découvrons dans l'Évangile, nous allons nous souvenir comment Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il ne s'est pas montré tout de suite. Il s'est approché, il a marché avec eux, il a parlé avec eux pour faire monter en eux quelque chose. Il était en quelque sorte derrière un mur, derrière un treillis, quelque chose, puisqu'il nous est dit qu'à ce moment-là, eh bien, les yeux des disciples étaient empêchés de le voir. Et il parle, Jésus, avec ses disciples d'Emmaüs, il chemine avec eux et il fait brûler leur cœur. Ça, c'est la stratégie de Dieu, de faire brûler nos cœurs, de ne pas se révéler. Nous sommes un peu les enfants de la Pentecôte et on aime bien la puissance, on aime bien ce qui descend du ciel d'une manière fracassante. Mais si vous regardez dans la Bible, ça n'a pas toujours été comme ça que les choses se sont passées. Dieu s'approche d'une âme, il s'approche de son Église, il s'approche de chacun d'entre nous. Il ne va pas forcément se révéler d'une manière transcendante. Il commence à faire brûler nos cœurs à travers sa parole que nous lisons ou à travers les messages que nous pouvons entendre et sans forcément tout comprendre, mais il y a comme un feu à l'intérieur de nous-mêmes. En d'autres termes, il attend à la porte et il regarde par la fenêtre. Il est derrière le mur et il attend que nous nous éveillions ou que nous éveillions nos cœurs et nos intelligences à la réalité ou à la réalité toute proche de sa venue pour nous dire il vient. Et d'attendre, finalement, et d'entretenir, de brûler d'espérance. C'est ainsi que nous pouvons, eh bien, quelque part expliquer ce qui nous est présenté à travers la bouche de Sulamite, cette jeune fille, et elle le dit d'une manière très bien, elle le dit d'une manière formidable, et quand nous nous reportons dans les évangiles, nous comprenons que c'est exactement la même chose que Jésus a fait. Alors, quelle réaction et quel accueil allons-nous faire à celui qui nous attend? Il vient d'une manière imperceptible, il avance, mais il ne se fait pas connaître totalement et complètement. On va un peu plus loin, au verset 10, c'est toujours Sulamite qui dit ceci: « Mon bien-aimé parle et il me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. » C'est donc Salomon, le bien-aimé, qui parle « Lève-toi et viens. » Il l'appelle à sortir des sombres hivers où tout sommeille en attendant l'arrivée du printemps, qui est naturellement, eh bien, le renouveau de la vie. Nous allons le découvrir tout de suite à travers les versets que j'ai commencé à lire tout à l'heure. Et c'est encore une invitation pour chacun à s'extraire du monde glacial, du monde que nous connaissons, un monde sans chaleur et sans cœur, un monde hivernal. C'est pourquoi il va lui dire « Mais lève-toi, viens !» Et les perspectives lumineuses qui attendent le peuple de Dieu sont susceptibles de réveiller, ou en d'autres termes de réchauffer, l'espérance engourdie des chrétiens. Vous avez compris. Le bien-aimé approche, il ne se montre pas, il fait brûler le cœur, il suscite de l'espérance, il vient bientôt. Il va apparaître. Mais il veut qu'il y ait aussi de la part de l'Église, eh bien, ce mouvement qui va aller en crescendo pour, eh bien, en quelque sorte, lever les yeux vers le ciel et lui dire « Seigneur Jésus, viens, alors qu'il a fait la promesse qu'il viendrait bientôt, et plus, peut-être plus précisément qu'il viendrait vite, et de les faire soupirer après leur destination céleste. Est-ce que l'Église aujourd'hui soupire après le retour de Jésus? Est-ce que véritablement, eh bien, lorsque nous chantons des cantiques, nous les chantons avec cette ferveur que l'Esprit met dans nos cœurs pour dire « Mais Seigneur, nous soupirons après ton retour ». Seigneur, tu vois le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'hiver, c'est un monde glacial, c'est un monde sans cœur, c'est un monde sans amour, c'est un monde terrible. Et c'est ainsi que, eh bien, nous découvrons, et c'est pour ça que je l'ai lu en premier, c'est pourquoi cette jeune tsunamite dit ceci, car voici l'hiver est passé. Avec toutes ses tribulations, avec toutes ses rigueurs, et elle va plus loin, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Et voici maintenant les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle, qui est un signe quand même, eh bien d'un renouveau, la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes, le figuier forme ses premiers fruits, et la vigne en fleurs exhale leur parfum. Et voilà l'époux qui lui dit, voilà, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Ouais. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'hommes, de femmes, dans le monde de l'Église qui va pouvoir être prêt? À ce moment-là, vous connaissez naturellement l'histoire des vierges folles et des vierges sages. N'est-ce pas dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, n'est-ce pas ce chapitre qui nous laisse entrevoir un monde nouveau de bénédiction et de ravissement, toutefois, pour parfaire à la gloire de ce lieu qui nous attend, il manque encore la présence de l'épouse, de la fiancée. Il manque encore la présence de Tsunamite. Il manque encore la présence de l'Église. Tout est prêt de l'autre côté. Mais sa présence n'est pas encore là. Pour que tout cela, pour qui tout cela était réservé, et l'époux invite une seconde fois, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Alors combien l'Église, en attendant sa glorieuse position, doit lever les yeux tout simplement en haut. C'est pas en bas. Le temps est révolu pour nous de regarder en bas et de nous affairer aux choses de cette terre, bien qu'il faille continuer à vivre. Mais la préoccupation première dans le cœur d'un chrétien, c'est là-haut. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il ne manque plus que Jésus vienne nous chercher pour que nous atteignions, eh bien, la finalité de ce pourquoi il a préparé tout cela. Alors, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui nous est présenté à travers le livre des Cantiques, parce que si vous lisez ce livre, vous allez avoir naturellement, eh bien, toute la compréhension de l'Évangile, et dans, vice-versa, naturellement. Et ainsi, de pouvoir aspirer aux choses d'en haut, comme nous dit Paul, et de s'entretenir en attendant son retour, eh bien, tout simplement par des hymnes qui évoquent la gloire du ciel. C'est Paul qui le dit à un moment donné, je crois dans Éphésiens, il dit « Mais entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et glorifiant le nom du Seigneur. » Voilà. Et vous savez, si dans nos cultes nous chantons, c'est pas pour faire bien et pour meubler et accomplir une liturgie religieuse, hein, c'est pas ça. Hein. Mais ça doit pouvoir susciter en nous, eh bien, cette aspiration profonde de dire « Eh bien, Seigneur, viens et reviens bientôt, parce que le temps de chanter est arrivé. » C'est ce que nous avons lu il y a un instant. Si vous reprenez les mots « Le temps de chanter est arrivé », et pas de se lamenter, et pas de pleurer sur notre misère, parce que nous sommes les plus heureux de toute la terre, hein. Faut pas l'oublier, même s'il y a encore des tribulations et toutes sortes de choses. Autant que nous regarderons de l'autre côté, nous aurons envie vers le ciel, eh bien nous aurons envie de chanter. Chanter, en effet, puisque nous en parlons, a toute sa place parmi les chrétiens pour les soutenir dans leur tribulation terrestre, leur humiliation. Car la réalité ici-bas, c'est que l'épouse, en d'autres termes l'Église, est comme dans la crainte, dans un monde qui n'est pas le sien, et elle est obligée de se cacher pour se protéger, ce que nous dit le verset 14. « Ma colombe qui te tient dans les fentes des rochers, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » L'Église se cache actuellement. Elle ne paraît pas dans ce monde. Et quand elle paraît un tant soit peu, on se moque. On la dénigre. Hein. On la dévalorise. C'est la position. Ça a été la position de l'Église dans tous les siècles où elle a été persécutée à outrance. on l'est peut-être moins. Mais moralement, on l'est, hein. Faut pas se faire d'illusions, de toute manière. Et nous nous apercevons que derrière cela, eh bien, ses ennemis sont nombreux. Ou les ennemis sont nombreux à s'acharner sur l'Église de Jésus-Christ. Pour la détruire ou l'entraîner à l'infidélité d'une manière ou d'une autre. Soit c'est la jouissance, ou soit c'est la souffrance. Ça, c'est Salomon qui parle. C'est le roi. C'est le bien-aimé qui parle. Alors, face au mal et à la corruption, il faut se cacher. Et il y a des thèmes qui sont développés dans la Bible, où les justes, où les hommes pieux se cachent devant tout ce qu'il peut y avoir de terrible dans le contexte, eh bien, de notre monde. Et à ce titre, Christ sera toujours un rocher de protection et une sécurité. Vous l'avez vu avec moi, ma colombe qui te tient dans la fente des rochers. Voilà. Qui te cache dans les parois escarpées. Eh bien, si nous devons nous cacher, cachons-nous en Christ. Réfugions-nous par la foi dans sa grâce. Et là, nos ennemis seront toujours défaits. Ils seront toujours vaincus. On va un peu plus loin. C'est toujours le bien-aimé qui parle. Salomon, le roi, si vous voulez. Je multiplie un petit peu les rappels. Il est dit ceci. Prenez-nous des renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors naturellement, vous avez toujours compris que c'est un langage poétique, il faut le décoder. Mais justement, l'explication est donnée. Les petits renards en question, ne serait-ce pas ce que nous considérons trop souvent comme insignifiant, comme des choses qui arrivent dans notre vie, qui se promènent de droite et de gauche et qui sont insignifiantes et qui pourtant est dévastateur pour nos âmes et trouble la communion avec Dieu. Ouais. Toutes ces choses qui appartiennent au monde, toutes ces choses qui appartiennent à notre nature aussi, parce que n'allons pas accuser le diable ou notre environnement, mais quelquefois nous sommes nous-mêmes en cause dans tout cela. Ce sont ces petits renards qui viennent d'une manière subtile et rusée, parce que c'est véritablement la caractéristique de ce petit animal, et qui vient casser notre communion avec notre Dieu. Les négligences dans nos pensées, à travers l'orgueil, les murmures de mécontentement que Dieu n'apprécie pas. L'impatience, la jalousie, l'égoïsme, tout ce qui semble naturel et inoffensif dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens, et que quelque part nous caressons au lieu de combattre. Ce sont ces petits renards. Alors, leur présence, comme cela est dit, eh bien, fait des ravages pour que le fruit n'apparaisse pas. Puisque la vigne est en fleur, et si véritablement ces petits renards qui passent dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, eh bien, font ce travail de destruction, la vigne restera peut-être en fleurs, ou les fleurs seront saccagées, et si les fleurs sont saccagées, il n'y aura pas de fruits, tout simplement. Le verset 16 nous dit ceci, et c'est la reprise, c'est la bien-aimée qui parle, c'est Tsunamite. Elle dit ceci, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Dans son rêve, parce qu'on peut l'expliquer comme ça, le cœur de Tsunamite est tellement débordant de désir et d'affection qu'il exprime, eh bien, leur mutuelle appartenance, et cette image suggère tout ce qu'il y a de brûlante aspiration de se revoir entre un fiancé et une fiancée, entre un mari et son épouse, quand ils sont séparés. C'est naturel, et il ne peut pas en être autrement, quand il y a cette séparation entre des gens qui s'aiment. Et mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Preuve de fidélité, preuve et proclamation d'un amour indéfectible. Alors, il n'est pas là parce qu'il est parti faire paître son troupeau parmi les lys. Voilà. Donc, il y a naturellement, eh bien, cette séparation parce que l'amour languit par l'absence. Oui. Tsunamite se plaît à penser à son bien-aimé, à celui qu'elle aime. Mais il n'est pas près d'elle. Il a regardé un moment et puis il est parti. Et elle parle, finalement, jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, L'obscurité voile tout à ce moment-là, et bientôt ce sera la pleine lumière, comme le dit le reste du texte, sur les montagnes qui nous séparent, pour dire qu'un jour proche ou un jour prochain, toute séparation, si haute soit-elle, disparaîtra. Il n'y aura plus de séparation entre notre Dieu et puis son peuple. Il n'y aura plus de séparation, eh bien, comme nous le constatons aujourd'hui. Nous cherchons le Seigneur en tâtonnant, mais nous le verrons face à face. Nous le contemplerons dans sa gloire. Alors, il y a des soupirs, il y a nécessité pour l'Église de faire montre de patience, de démontrer sa patience, et c'est l'attente des chrétiens, des disciples, des derniers temps, dont Jésus nous a prévenus en nous disant ceci, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme » et la réponse, parce qu'elle n'est pas prête, et la réponse que Jésus nous donne, et vous ne le verrez pas. Voilà. Et nous sommes encore dans ce temps-là. À travers tous les siècles, des hommes, persécutés ou non, dans la misère et dans cette dévastation de ce monde, ont dit « Seigneur, mais reviens bientôt ». Et Jésus dit « Mais vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas, parce que le temps n'est pas encore prêt ». Dans le Cantique des Cantiques, c'est exprimé de cette manière « Fais-nous voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable ». C'est ce que nous avons lu hein, dans la suite, tout simplement de… je ne vous ai pas cité les versets, mais c'est ce que cela veut dire. Alors, en attendant, il faudra bien se contenter encore un peu de la voix de sa parole. Et sa parole, nous l'avons. Sa personne, nous l'avons plus. Sa présence, nous l'avons par le Saint-Esprit, mais il faudra nous contenter par la foi de recevoir sa parole et de considérer, eh bien, qu'il est là au milieu de nous par son esprit, mais nous ne le verrons pas. Pas encore. Alors, cette voix de sa parole qui va faire brûler nos cœurs, qui entretient ce feu à l'intérieur de nous-mêmes, c'est le feu de la foi, c'est le feu de l'espérance, et qui nous rappelle finalement, sous l'image de son visage, eh bien son exemple. C'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous motive les uns et les autres, parce que sa figure, son visage, son exemple, c'est notre modèle, tout simplement. Et nous avons suffisamment dans sa parole pour pouvoir imiter Jésus et l'attendre, et qui apparaît à chaque page de notre Bible pour l'imiter, oui, c'est bien cela, et soutenir notre espérance, et nous aurons que cela jusqu'à ce qu'il revienne. Donc c'est une marche par la foi, en entretenant le feu de la grâce qui est en nous, mais de marcher par la foi, alors nous avons besoin de ne rien négliger. Et nous commençons le chapitre 3, et au verset 1er, il nous est dit ceci, « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. » Ça, c'est Tsunamite qui parle encore, qui continue à parler. Entendre parler, mais pour l'Église, entendre parler de ce jour d'où il revient, et pour l'Église séparée de Christ, c'est toujours encore la nuit. Nous sommes encore dans la nuit de ce monde. Nous chantons, quelquefois nous l'exprimons. Quatre fois dans les versets suivants, Tsunamite répète, celui que mon cœur aime. C'est une insistance, elle marque finalement, eh bien, sa détermination à continuer à aimer. Même dans la nuit. Même si elle ne le voit pas. Elle sait qu'elle a des promesses, elle a sa parole, ça lui suffit. Et c'est pourquoi elle s'entretient dans cette espérance en disant « Mais celui que mon cœur aime !» Et je crois que pour nous-mêmes, eh bien, c'est la seule chose, c'est le point d'appui dont nous avons besoin. Et autant que les chrétiens entretiennent la ferveur de leur amour pour Christ, autant ils seront soutenus dans leur patience éprouvée, même pendant les nuits. Même pendant les nuits de ce monde, à travers les temps favorables et les temps défavorables. Mille façons de le faire. Pour les chrétiens que nous sommes, c'est de confesser le nom de Jésus-Christ, c'est de le chanter, c'est de le vivre en l'imitant, c'est le répéter sans cesse, ça s'appelle la méditation, méditer sa parole. Alors, pour qu'enfin il prenne toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, il n'y aura plus de place pour le reste. Et nous pourrons dire à ce moment-là, celui que mon cœur aime, Est-ce que véritablement l'Église est à ce point de pouvoir confesser totalement, complètement, entièrement que le cœur de l'Église, eh bien, c'est véritablement l'amour de Christ? C'est Christ qui est la priorité. Ensuite, nous voyons ceci, il est dit sur ma couche, c'est-à-dire sur mon lit. Sur ma couche, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épouse dont l'amour, au fur et à mesure, s'éveille davantage, elle cherche celui qu'elle aime. Elle le cherche, mais confesse qu'elle ne l'a pas trouvé. Jésus nous dit, et je le répète, « Vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne verrez point. » Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a une question qui se pose, c'est la suivante. L'épouse, la fiancée, Tsunamite, cherche-t-elle de la bonne manière? Est-ce que l'Église cherche de la bonne manière? Sur mon lit, sur ma couche, façon étrange de chercher celui qu'elle aime, en restant tout simplement, eh bien là, à attendre, c'est original. Tant que l'Église cherchera en voulant garder ses aises, parce que quand on est dans un lit, c'est l'image des aises, de l'aisance en quelque sorte, on se repose, et que nous voudrons toujours garder nos avantages, eh bien l'Église a peu de chances de le trouver. Vous savez que Jésus nous dit, si vous voulez être mon disciple, il vous faut renoncer à vous-même, se charger de votre croix. Bon, ça c'est une chose. On s'en souvient, Jésus nous donne des exhortations tout à fait précises, que pour le disciple qui veut rentrer dans le royaume de Dieu, eh bien il faut qu'il se lève et qu'il se mobilise. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais si nous sommes sous notre lit et que nous avons mis le boisseau, nous avons mis la lampe sous le boisseau, alors à ce moment-là, nous resterons dans la nuit, nous en avons parlé tout à l'heure. Et prétendre trouver la plénitude, la dimension supérieure de l'amour, du service et de toutes sortes de choses qui appartiennent à notre piété, implique à renoncer à son confort, à ses habitudes et à ses convenances douillettes, dans lesquelles on s'endort si facilement. Est-ce que l'Église ne se serait pas endormie comme les vierges folles? En oubliant l'essentiel, c'est que nous avons une lampe qui est peut-être l'image de notre capitale vie, mais nous avons oublié de prendre de l'huile. Et vous savez, si nous n'avons pas d'huile, nous resterons dans la nuit obscure. C'est ça ce que nous pouvons tirer peut-être de cet enseignement. Notre amour pour Christ nous pousse au sacrifice, tandis que l'affection de nos aises nous retient. On le sait, c'est les exhortations fréquentes que nous entendons lorsque nous avons des réunions et pour stimuler notre vie et notre foi, naturellement. Être réveillé est une chose, rester allongé en est une autre, mais nous le trouverons lorsque seulement nous nous lèverons. Écoutez bien ce que nous dit l'apôtre Paul dans ce verset biblique, dans ce verset de l'Épître aux Romains au chapitre 13, et quand il est dit ceci, au verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voilà. Cherchez de la bonne manière. Ça, c'est ce qui nous est présenté. Toujours dans le chapitre 3, verset 2, je poursuis. Alors, elle va réagir, Tsunamite. Et il nous est dit, « Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. » Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Curieux, hein? C'est toujours à peu près le même refrain qui vient. Elle cherche, mais elle ne le trouve pas. Et lui attend qu'il soit découvert. Tsunamite a compris le choix de ses priorités, ses aises ou son bien-aimé. C'est son bien-aimé qui va passer en premier. L'Église doit faire passer Christ avant toute autre chose, naturellement. Toutefois, à nouveau, elle fait fausse route. C'est ce que nous suggère ce texte. Après la mauvaise manière, la voilà qui cherche, mais au mauvais endroit. Dans les villes, dans les rues et sur les places. Qui est l'image, finalement, de la société des hommes, qui est l'image du monde en quelque sorte. C'est encore une autre grande vérité qui est à rappeler. On ne peut désirer trouver et suivre Jésus et en même temps suivre ou rechercher les chemins et les endroits du monde, de la terre. Où Jésus nous dira dans le sermon sur la montagne, chemin large et spacieux, dont beaucoup trouvent. Mais le chemin dont nous sommes appelés à emprunter, c'est un chemin étroit et périlleux. Et sur ce chemin-là, Christ n'y est pas. C'est clair. La mondanité, ses amours et ses passions, qui sont toujours illusoires, est un ennemi irréductible et incompatible avec l'esprit chrétien. Ça, il faut se le dire. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous reprendre en sous-main pour nous faire changer. Nous venons avec notre culture, avec notre mentalité, notre religiosité, notre façon de penser et d'être. Les modes qui finalement font avancer le monde. Mais nous sommes venus et Dieu nous a appelés dans ce contexte. Et petit à petit, il va changer. Il va nous changer par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est rare quand c'est un miracle transcendant où un homme se couche le soir, il est un homme, et bien là, tel qu'il est, puis que le lendemain matin, il se retrouve finalement comme un ange. Non, c'est le temps qui fait les choses. Et vous avez remarqué, c'est comme l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille, ça se fait tout doucement. Vous savez, on le verra dans le dernier chapitre, mais prendre l'amour brutalement, c'est le casser, le perdre et le tuer. Et heureusement que le Seigneur agit avec nous, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de doigté, excusez-moi, je cherche mes mots, c'est le soir, c'est plus difficile, mais il le fait avec beaucoup de douceur et de tendresse pour nous amener à lui. Alors, il prend son temps, et nous nous apercevons que il y a des choses qui sont dans le processus de Dieu, même si quelquefois ça nous désespère d'attendre, si nous sommes à trépigner et impatients, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et comme Tsunamite, elle dit ceci, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé, parce que c'était pas au bon endroit. Dans le premier cas, l'injonction de le trouver était, levez-vous. Dans ce deuxième cas que nous avons, celui-ci, ne vous installez pas. Dans les rues, dans les villes, dans le monde. Voilà. Là où se trouve le monde n'a jamais été de bonnes inspirations pour le peuple de Dieu. Un christianisme qui se mondanise, c'est un christianisme qui perd son sens. On le sait. Le mot église, ça veut dire appeler hors d'eux. Alors on peut vivre dans le monde, mais sans avoir l'esprit du monde. C'est ça la grande différence. Et quelquefois, tous les chrétiens n'arrivent pas à bien comprendre ce que ça veut dire. D'ailleurs, Jésus nous le dit. Et il le dit à son Père dans cette prière qui est « dont nous sommes au bénéfice, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. » Et nos implications, eh bien, elles sont quotidiennes, elles sont en tant que citoyens, en tant que, ce que nous avons à faire dans ce monde. Mais en nous gardant finalement du mal. Et nous sommes au bénéfice de Jésus parce que c'est lui qui va nous garder du mal si nous voulons être gardés du mal. Tout simplement. Alors, on trouvera Christ et sa communion en dehors. Le livre des Hébreux nous dit « Christ a souffert hors de la porte ». Toujours la même chose, c'est la même pensée. Sortons donc pour aller vers lui. C'est pas lui qui va venir là, à ce moment-là. Hors du camp de la ville, car nous n'avons pas ici-bas de cité ou de ville permanente pour nous y installer. Dans l'épître de Paul, il est dit ceci « Séparez-vous, dit Dieu, et je vous accueillerai ». Et nous en arrivons au verset 3. Il est dit ceci, dans ce chapitre 3, verset 3, « Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Voilà la question. C'est intéressant, vous allez voir. Il y a une nouvelle tentative et un nouvel échec. Cette fiancée cherche son bien-aimé. Elle ne le trouve pas. Elle ne le trouve pas parce que elle pense que c'est sur le lit, sur sa couche, et attend que voilà les choses se passent, c'est ses aises. Elle va le chercher dans les rues, dans la ville, etc., etc. Elle ne le trouve pas non plus. Et là, alors elle continue à le chercher, mais elle va pas le trouver non plus. Un nouvel échec. Tsunamite a cherché de la mauvaise façon, elle a cherché jusqu'alors au mauvais endroit, et cette fois elle s'adresse aux mauvaises personnes, qui sont nommées les gardes qui font la ronde. Les mauvaises personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Un garde, c'est un vigile, c'est un surveillant, et souvent un surveillant nocturne, dont la charge est de veiller au respect des lois de l'ordre public. Que de croyants, certes sincères, à l'image de Tsunamite, se sont fourvoyés parce qu'ils se sont adressés aux hommes plutôt qu'à Dieu. Sous l'image des gardes. Ouais. Et il y a d'abord un dicton qui dit ceci, vous le connaissez, qu'il faut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Bon, ça on le connaît. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à décoder. Vous savez, on pourrait passer seulement sur un verset une soirée. Je passe très vite, hein, je suis obligé, parce qu'autrement, en 2015 ou 2016, on y sera encore. Hein. Mais il y a une perle, le livre des Cantiques et des Cantiques. Alors, elle va dire, pouvez-vous me dire? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous me guérir? Pouvez-vous me délivrer? C'est ce qu'elle demande autour d'elle. Dites-moi où se trouve mon bien-aimé. Mais elle s'adresse aux mauvaises personnes. Et la grâce de Dieu, pour ceux qui vont chercher auprès des hommes au lieu d'aller chercher les choses auprès de Dieu, eh bien, ce sont des hommes, ou peut-être même des chrétiens, voire même des chrétiens, où la grâce de Dieu leur a paru insuffisante, où la puissance divine est trop lente, où ses exigences sont trop difficiles. Alors, ils sont descendus en ville, dans les rues et dans les places, en quête d'y trouver des solutions. Mais la véritable solution, c'est pas là. Et ni même auprès de ces personnes qui ne sont pas les bonnes personnes. Ils n'y ont rencontré que des gardes de ce monde. Ouais. Gardes de la loi, gardes de la morale, de la moralité, ceci et cela. Mais on est très loin, finalement, eh bien, de la dimension même de l'amour de Dieu, qui est avant tout esprit. Alors, ceux qui veillent dans la nuit, et celui qui nous appelle, c'est celui qui, finalement, ne dort ni ne sommeille. C'est le Dieu du jour, c'est le Dieu de la lumière. Alors, c'est chercher un peu de lumière dans les ténèbres. Pourtant, la Bible, le Nouveau Testament nous dit ça sous la plume de l'apôtre Paul. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, pourquoi chercher ailleurs? Mais c'est un signe peut-être de rétrogradage, d'aller chercher dans le monde, d'aller chercher en bas, alors que nous l'avons déjà en haut. Peut-être. Alors, pourquoi se tourner vers ces gardes de la nuit? Recourir à la loi des hommes. On n'est pas sauvé par la loi, on est sauvé par la foi, par la grâce de Dieu. Pour se protéger ou se défendre, tous les traitements psychologiques, les médecines parallèles qui nous font des promesses, et même quelquefois qui peuvent tenter les chrétiens, et même ces psycho ou ces pseudo plutôt guérisons miraculeuses, attention, c'est flirter avec l'illusion. C'est flirter même peut-être avec de l'occulte, qui n'est que tout simplement de la tromperie. Alors ni Christ, ni sa vérité, ni sa puissance et son amour libérateur n'y sera trouvé dans ce contexte-là. Chercher ailleurs, c'est une désobéissance, pour ne pas dire une infidélité. Je vais terminer. Tsunamite l'admet. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Si l'Église ne s'arrête pas auprès de ses gardiens de la nuit, elle ne manquera pas de découvrir celui qu'elle attend. Et c'est le verset 4. À peine les avais-je dépassés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. On va terminer sur ce dernier verset. L'expression est forte. Je l'ai saisi. À peine avait-elle compris que ce n'était pas auprès des gardes, que ce n'était pas dans les rues ni dans la ville, que ce n'était pas sur son lit. Alors à ce moment-là, tout de suite, eh bien, il est apparu. Il a fait son apparition auprès de Tsunamite. Et l'expression donc, « je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché », elle avait surmonté les obstacles. Et il faut garder, quand on a trouvé, et le désirer énergiquement, autrement ça peut disparaître. Lorsqu'un être ou un bien devient plus précieux que tout le reste, alors on y veille comme un trésor. comme la prunelle de nos yeux. Et la foi d'un chrétien, la foi de l'Église, c'est Christ. Et parce que c'est un trésor, c'est la perle de grand prix, eh bien gardons ce que nous avons véritablement reçu et conservons-le. Ne nous laissons pas ravir. Il y a cette belle parole du roi David qui disait ceci dans un psaume, en parlant à Dieu, « En parlant de Dieu, tu es mon souverain bien. » Moi, c'est une expression que j'aime beaucoup. Parce que je me dis, Seigneur, si tu es le nec plus ultra de mon existence, si véritablement, et je voudrais vous dire honnêtement, et peut-être quelquefois, considérant mes fautes et considérant mes faiblesses, je me dis, Seigneur, je ne t'aime pas encore assez. David pouvait dire, je suis, tu es pour moi mon souverain bien. C'est quelque chose de très fort. Et quand nous avons véritablement cette parole, comme Paul, comme David l'exprime, au fond de notre cœur, eh bien, je pense que Dieu est à la première place. Paul le dira aussi, Christ est ma vie. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, on touche quelque chose de très grand et très fort. Ne relâchons pas notre amour, ni notre espérance, parce qu'il revient bientôt. Il va apparaître. Il va se laisser découvrir. Et pressons-le d'entrer chaque jour. Et c'est pourquoi Tsunami dira, parce qu'elle l'a trouvé, « Je l'ai amené dans la maison de ma mère. » Qu'est-ce que ça veut dire? L'époux avait amené son épouse ou sa fiancée dans la première lecture que nous avions faite, la première étude, vous en souviendrez, dans les chambres du roi. Vous vous souvenez de ça, hein? 1, chapitre 1, verset 4. Ensuite, il avait amené sa fiancée dans la maison du vin, chapitre 2, verset 4. Et cette fois, au chapitre 3, verset 4, eh bien, c'est l'inverse qui se produit. Pourquoi l'inverse? Parce que dans l'attente du ciel, un trésor se garde près de soi. Oui. Si vous avez quelque chose de valeur, vous n'allez pas le laisser traîner un petit peu à la vue de tout le monde. Vous allez le garder près de vous. Et il nous est dit, je l'ai emmené dans la maison de celle qui m'a enfanté. Notre humanité souffrante, pauvre demeure que celle des hommes, notre humanité, que Paul appellera le corps d'humiliation. Tant que nous serons dans un corps, même si nous sommes chrétiens et que nous sommes comblés de tout, nous resterons dans un corps d'humiliation, avec ses souffrances, avec toutes ses faiblesses et tout cela. Alors, saisissons-le, notre trésor. Ce trésor, c'est Christ. Le trésor de l'Église, c'est Christ. Saisissons-le et retenons-le jusqu'à ce qu'il revienne, jour où notre délivrance sera totale pour nous, amenée à son tour dans la vraie cité qui sera notre maison définitive. Ce ne sera pas la maison d'en bas, ce sera la maison d'en haut. Oui, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, si vous voulez. Parce que dans Galates, il est dit ainsi, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alors réjouissons-nous, éclate et pousse des cris de joie. » Alors, dans cette glorieuse perspective, et je vais dépasser un tout petit peu, c'est Salomon qui va parler à ce moment-là, c'est le roi, c'est le fiancé, c'est l'époux. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Je termine sur ça. Dans cette perspective, s'achève notre réflexion comme elle a commencé, pour nous dire que l'amour est sensible. Attention, c'est fragile l'amour, hein. Il ne faut pas le blesser. L'amour qui nous relie avec le ciel, et l'amour qui nous relie avec les uns et les autres. Et il faut quand même dire que l'Église n'a pas toujours excellé dans ce domaine. Que de blessures, que de meurtrissures, l'amour est sensible. On parle de la communion fraternelle, de l'amour fraternel, faisons attention entre nous. Parce que c'est un bien qui a une valeur incommensurable. Faisons attention à l'amour entre nous. L'amour est sensible. Soyons aux aguets pour que rien ne trouble l'amour. Laissons l'amour s'éveiller tranquillement, doucement, paisiblement, pour le grand jour où il revient. C'est pourquoi dans le psaume 17 et au verset 5, il est dit ceci, « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil et je me rassasierai de ton image. » C'est ce que nous attendons réellement. Je voudrais simplement dire quelque chose de tout à fait personnel. Quand je me suis converti, quand j'ai découvert le Seigneur, C'était il y a bien longtemps maintenant, en Hollande, Amsterdam. C'est ce passage que le Seigneur m'a donné. C'est ce qui m'a bouleversé. Écoutez, pour moi dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil et je me rassasierai de ton image. J'aurais dire que le jour où je partirai de l'autre côté, eh bien je verrai véritablement mon Dieu. Et je me rassasierai de tout ce qu'il a fait pour moi. Du salut qu'il m'a donné, je m'en souviens, d'un samedi matin, c'est tout. Il y a des choses qui marquent profondément comme ça. Et mes yeux s'ouvriront, ils se fermeront sur la terre, mais ils s'ouvriront pour la dimension du ciel. Et je verrai, non pas seulement l'image, mais je verrai face à face. Alors que le Seigneur nous bénisse. Un petit peu compliqué, hein, cantique des cantiques, hein, faut suivre, hein, ça va? Mais c'est, faut toujours faire une assimilation entre le poème et puis également la réalité qui nous a été proclamée à travers, tout simplement, eh bien, le message de l'évangile. On va prier simplement. Et la prochaine étude, qui sera la quatrième, ce sera le mercredi 22 mai à 20h, dont le thème sera un jardin dans le désert. Alors nous irons découvrir les jardins de Dieu. Que Dieu nous bénisse maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, croyons que chaque verset mériterait que nous disions et que nous parlions encore davantage, que nous puissions approfondir, mais Seigneur, qui peut être suffisant pour ces choses, parce que c'est toi, en effet, Père éternel, qui donne et qui révèle ce que nos cœurs attendent, ce que nos cœurs ont besoin. Oui, Seigneur, que ta parole fasse brûler nos cœurs d'amour pour toi, et qu'ainsi, Seigneur, nous sommes à ta recherche, nous sommes dans ton attente, nous soupirons, Seigneur, après ton retour. L'Église attend, en effet, son Christ crucifié, mais ce n'est plus un Christ crucifié que nous attendons. C'est un Christ glorifié qui vient chercher, Seigneur, ceux qui ont mis leur confiance en lui. Eh bien, Seigneur, enseigne-nous véritablement ce qu'est cet amour divin, cet amour de Dieu qui s'approche tout doucement de nous et qui nous prend, qui nous réveille, qui nous éveille, qui nous amène à ouvrir les yeux, qui nous amène à voir, à comprendre, à réaliser qu'en effet, Seigneur, eh bien, notre position, notre cité, notre demeure, c'est pas la maison de ma mère, ici sur cette terre qui est l'image de l'humanité, mais notre véritable maison, Seigneur, c'est celle qui est en haut, celle qui nous a été préparée, puisque tu nous dis que tu as plusieurs demeures, tu as plusieurs maisons dans la maison de ton Père, et tu les as préparées pour nous, pour que nous puissions véritablement, lorsque nous nous réveillerons pour le grand jour, le jour de l'éternité, alors si nos yeux se ferment sur ce monde d'en bas, eh bien, ils vont s'ouvrir pour le monde d'en haut, où il n'y aura plus qu'une chose qui demeurera, c'est l'amour. Seulement l'amour. Ta parole nous dit, trois choses demeurent. Eh bien, l'espérance, la foi, et la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Eh bien, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.